Mes chers compatriotes, ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre. Aujourd'hui, pas de rassemblement dans nos villes pour fêter comme nous le faisions depuis tant d'années, la Journée internationale des travailleurs. Grâce au travail des forces de l'ordre, ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre. Et je sais toutes les contraintes qui pèsent sur les joies qui accompagnent normalement ce jour si symbolique, avec cette volonté forte. Retrouver dès que possible les premiers nés joyeux, chamailleurs parfois, qui font notre mission.
Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. Regardez bien, il l'a tabassé par terre.
Vive la République. Vive la France.
Il est sorti.
Privé de sortie. Privé de sortie.
Privé de sortie.
Privé de sortie.
Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Privé de sortie.
Privé de sortie.
Privé de sortie.
C'est l'émission des confinés de Marseille en direct depuis un appart confiné, bien sûr.
Salut, salut à toutes et à tous, c'est Privé de sortie.
Bonjour. Salut tout le monde.
Hello. Et bah voilà, vous êtes sur Radio Galère, il est 16h comme tous les jours depuis le début de ce confinement. On se retrouve en direct de notre appart confiné du centre-ville de Marseille pour parler de la situation actuelle. Tout ça dans l'idée de donner la parole aux plus galériennes et galériens d'entre nous dans ces moments où le pouvoir se permet tout. Et moi je voulais profiter de ce petit édito pour dire à quel point cet outil radio est puissant et autonomisant. Je sais pas trop si ça se dit, mais bon, on le voit avec cette sale crise, on a besoin d'outils qui puissent exister sans être dépendants de nos ennemis. En ces temps de confinement, on a vu plein d'initiatives radio émerger de partout et ça fait plaisir. Voilà, on ne veut pas de retour à l'apostrophe anormale. À tous les niveaux, on veut pas que les centres de rétention réouvrent, on veut pas être sauvé de cette crise par le capital, on veut pas continuer de détruire nos services publics, que ce soit l'hôpital ou les autres. Et moi j'aimerais bien qu'on se dise qu'on pourrait transformer nos moyens de communication, et de toute façon il va le falloir, parce que dans ces moments de crise en fait il ne nous reste que la radio ou nos téléphones. Et concernant nos téléphones ou internet, la surveillance est la réponse à tout, la réponse à la crise sanitaire, la réponse antiterroriste, la réponse sécuritaire par excellence, et il va falloir se méfier de plus en plus de nos écrans. Alors moi je compare souvent une radio à un mur de la ville sur lequel on peut peindre ce qu'on veut. On peut se faire griller en taguant un moche à câble dégoulinant dessus, mais 100 personnes le verront quand même le lendemain. On peut aussi faire une belle fresque très esthétique, commandée par la ville, se faire payer et récupérer des bombes pour vandaliser une banque avec. Et entre ces deux extrêmes, qui sont d'ailleurs assez critiquables, tout est possible. Tout est possible parce qu'on a toutes et tous un mur ou une radio à portée de main. Et pour ce qui est de la radio, c'est accessible à tous et tous, ceux qui ont une voix. Donc écoutons plein de radios, faites tourner les émissions qui vous plaisent à vos potes, il y a 1000 projets d'émissions, de podcasts, de directs, et pensez-y même après le confinement. Et faisons aussi de la radio, ici à Marseille il y a plein de radios FM associatives, il y a Galère mais pas que, il y a Grenouille, il y a United, il y a Radio Soleil, Radio JM, il y en a d'autres. Et il y a parfois de la radio pirate même à Skip. Il y a plein de projets sur le web, en podcast ou en direct, rejoignez-les. Vous pouvez même nous envoyer vos contributions pour Privé de sortie. Bon, on va falloir se dépêcher un peu parce que bientôt on va arrêter, mais c'est pas mort. Pour vos participations, idées, pour nous contacter, notre adresse mail c'est pvsortie@riseup.net. Et bref, aujourd'hui on vous a préparé une chouette émission.
Ouais.
Du coup, on parle de quoi? C'est quoi le sommaire?
Alors, on va avoir les brèves traditionnelles, hein, comme tous les jours. La chronique de PF. On va avoir un extrait de l'émission sur la grève des loyers qui a été diffusée sur Radio Galère, c'était hier. On aura un papier sur la stratégie de déconfinement qui est proposée par l'association Aide, l'association de lutte contre le sida. Et le tout avec une petite playlist rap français, c'est ça?
Tout à fait, une petite playlist avec un peu la mif et pas que. Voilà, et on va commencer je crois par un morceau de Dario, non?
C'est possible.
Ça te va, nickel. Yes, DJ B aux manettes, on enchaîne la mif.
Yeah.
Privé de sortie, Radio Galère 84 FM à Marseille.
Plus proche de la fiche S que de la richesse. Je te présente mon rap, pas né d'hier mais qui passe la vitesse. Même loin de leur business, il faut que le fric naisse. J'envoie des textes qui les détestent, donc j'envoie qui stressent. Le sens il est par là, donc leur sang sur le carrelage. Maison, je suis bon casa, diamant caché comme ceux de Bocassa. Sans la sueur de ces heures passées à froisser la feuille. Ou soit t'écris ou tu meurs. Non, je suis pas un youtubeur. Je fais ma propaganda selon mon propre agenda. Je préfère une bonne agenda à certaines de leurs révoltes bourgeoises. Je veux pas vivre hors du système. Je veux un système en or. Quand les cons sont tes ennemis t'honorent. J'ai peur de perdre l'inspi. Ils ont peur que je la trouve. Dans ton nom je l'inscris. Mais ma tête liste à jour. Qu'on peut commun est un style. Normal que peu l'approuve. Faut que j'insiste et fasse l'incite. Quand je vois le niveau dans la cour. J'ai peur de perdre l'inspi. Ils ont peur que je la trouve. Dans ton nom je l'inscris. Mais ma tête liste à jour. Qu'on peut commun est un style. Normal que peu l'approuve. Faut que j'insiste et fasse l'incite. Quand je vois le niveau. Le rap se prend pour Ben Ali, mais se prend la matraque de Benalla. Si dans mon jeu tu peines à lire, c'est que tu vois petit et que j'ai quatre as. J'ai essayé un son dansant, putain j'ai chopé une otite. J'ai la dalle du remplaçant qui a plus que le niveau pour le titre. Rongé par mon appétit, comme un certain monsieur Thomas Shelby. Mon écriture est née la nuit, il est donc bien normal qu'elle brille. Précision d'horloger, même quand pour penser c'est plus l'heure. Comme le daron je parle imagé, mais est-ce de l'art ou de la pudeur? Sur ma tête liste les autres MC. Mes mots je laisse les mollergises. Je ferai du poison de ma poésie pour les faux qui jouent les progressistes. Tu l'as compris, j'ai trop d'ennemis. Le pire c'est que je me compte parmi eux. Tu voulais nourrir ton esprit. Je t'ai servi une table à mille œufs.
Privé de sortie.
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 Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Ok, la MIF, comme tous les jours, on enchaîne avec les brèves du désordre. Alors, depuis le 28 avril, il y a un gros chantier qui a commencé dans le 3e arrondissement de Marseille. 9 immeubles qui doivent être démolis rue Guichard pour un projet de construction de logements sociaux. Le chantier a 10 mois de retard, il devait démarrer en juillet 2019 pendant les vacances scolaires. Il y a donc des vidéos qui circulent des débuts du chantier où on voit se dégager un nuage d'une épaisse poussière qui s'est répandue dans tout le quartier et dans la cour d'une école élémentaire à une quinzaine de mètres de là. Le problème n'étant pas tant la poussière que l'amiante qu'elle contient, comme l'a admis la Soleam, la société d'aménagement marseillaise en charge du projet, célèbre entre autres pour ses turpitudes sur le chantier de la Plaine. Il y a donc un parent d'élève qui témoigne sur France 3. Lors des dernières réunions avec la Soleam, on nous avait dit que toutes les précautions seraient prises. Là, il y a bien une grue qui projette de l'eau, mais tout part en direction de l'école. Les grilles sont recouvertes de poussière, il y en a dans la cour, partout. Dans la perspective du déconfinement, parents et enseignants sont très inquiets, ces derniers envisageant de jouer de leur droit de retrait pour repousser la rentrée à plus tard. Contacté par téléphone par France 3, le funeste président de la Soleam, Gérard Chénoz, admet que des fibres d'amiante ont été diagnostiquées dans les immeubles, mais qu'elles seraient en très faible quantité, et croit utile de préciser que les poussières du chantier ne sont pas nécessairement chargées d'amiante. Pas nécessairement. Toutes les précautions sont prises par l'entreprise chargée de la démolition, assure-t-il. On enlève les gravats au fur et à mesure et on essaie d'avancer au maximum avant la reprise du 11 mai. Seulement, ce chantier doit durer encore un mois et demi à deux mois, soit exactement le temps scolaire restant. Il n'y a pas plus d'amiante ici qu'ailleurs, on en trouve même parfois dans les écoles, d'après toujours le même Gérard Chénoz. Alors, à celles et ceux qui rappellent que la Soleam s'était engagée à effectuer ses travaux hors temps scolaire, le sinistre Chénoz répond « Il faut avancer car le confinement a bloqué les entreprises. » Comme si le confinement pouvait expliquer les 10 mois de retard. On est tenté de penser que les bouleversements municipaux à venir jouent pas mal dans ce soudain empressement. L'association des victimes de l'amiante dans les locaux de l'éducation, Laval, a été sollicitée pour commenter les images du chantier. Pour sa présidente, qui a immédiatement saisi le service juridique de l'asso, c'est sans appel, le chantier est effectué en dépit du bon sens, contre toute obligation légale. Elle explique, avant de démolir, il faut identifier les parties contenant de l'amiante, les isoler, les évacuer. Et ensuite vient le temps de la destruction. Sur les photos du chantier de Félix Pia, on voit bien les bennes. identifiés comme pouvant contenir de l'amiante. Ce ne sont pas des déchets ordinaires. On rappellera que l'inhalation de poussière d'amiante peut provoquer de graves pathologies pulmonaires comme le cancer du poumon et que la période n'est pas vraiment propice à la, fragilisation pardon, des poumons et des bronches.
Ouais, on le sait depuis le début du confinement, les drones sont un des joujoux préférés des keufs et des gendarmes. Un rapport sénatorial parle de 535 vols de drones de la police nationale entre le 24 mars et le 24 avril. Les missions, c'est la surveillance de la voie publique, rappeler à l'ordre les passants avec un haut-parleur embarqué, guider les patrouilles au sol, etc. Le tout sans aucun cadre légal, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment sont utilisées et conservées les images captées, ni par qui elles peuvent être consultées, ce qui constitue des atteintes, bien sûr, au droit à la vie privée. La Quadrature du Net et la Ligue des Droits de l'Homme a déposé un référé liberté devant le tribunal administratif de Paris pour exiger l'arrêt de l'utilisation de ces drones par la préfecture de Paris. Les deux organisations espèrent qu'une victoire là-bas à Paris aura des effets similaires dans tout le pays, parce que bien sûr c'est un peu la même chose dans toutes les villes de France.
Yes. Alors parmi les innombrables effets collatéraux de la crise sanitaire et du confinement, on apprend que les travailleurs immigrés, qui se retrouvent au chômage partiel ou total, envoient de moins en moins d'argent à leurs familles restées au pays. La Banque mondiale estime par exemple que la baisse atteindrait 23% en Afrique subsaharienne, soit une douzaine de milliards de dollars qui manqueront cruellement à cette partie du globe en ces temps difficiles.
L'autre jour, un homme de 31 ans est mort dans la nuit du 30 avril au 1er mai dans une cellule de dégrisement du commissariat de Saint-Denis. Il avait été examiné pourtant sur place par un médecin urgentiste. L'enquête sur les causes de sa mort a été confiée au commissariat de Saint-Denis, donc le commissariat où il est mort. Une plainte pour non-assistance à personne en danger a été déposée par la famille des victimes.
Parmi les profiteurs de guerre, pour reprendre à notre compte l'expression employée par les soignants dans leur communiqué, les masques et tout ça, il y a les fournisseurs de matériel médical qui ont retrouvé un peu de stock depuis et qui proposent aux dentistes et aux médecins libéraux des masques à prix d'or. Donc l'entreprise NM Medical vend 180 € la boîte de 25 masques FFP2. Tranquille. Chez DPI, c'est 139 € les 20 masques. Autant dire que les prix ont été décuplés par 10. On serait tenté de vilipender ces petits escrocs. Mais dites-moi, le profit à tout craint, la loi de l'offre et la demande pour établir les tarifs, est-ce que ce serait pas la règle et l'esprit même du capitalisme? Question purement rhétorique, on aurait compris.
Bien sûr. Donc conséquence de la gouvernance en solo au sommet de l'État, le Sénat a voté dans le cadre du projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, a voté un amendement portant sur une exemption de responsabilité juridique des élus locaux et fonctionnaires qui mettront en œuvre le déconfinement sur le terrain. En gros, ils ne veulent pas être tenus pour responsables de la stratégie de déconfinement décidée par le président, plus ou moins drivée par le gouvernement, mais dont la gestion est refilée aux maires et aux acteurs locaux sans que eux-mêmes n'aient jamais été consultés auparavant. Donc une sorte de responsable mais pas coupable, en gros. La ministre de la Justice a estimé qu'il n'y avait pas de problème, le régime actuel de responsabilité des élus suffit en l'état et a donc émis un amendement de suppression. Résultat, 327 voix contre, 0 pour, 13 des 23 sénateurs LREM se sont abstenus et 10 ont voté contre. Donc un gros taquet, la confiance à zéro. Ce qui est plus inquiétant, c'est que cette limitation de responsabilité vaut aussi pour les employeurs. Ça, c'est le petit côté majorité de droite du Sénat. Donc l'amendement stipule que nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d'avoir soit exposé autrui un risque de contamination, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, avec quand même trois exceptions. Si la personne en cause l'a fait volontairement, par imprudence ou en violation d'une mesure de police administrative. Voilà, ça doit passer à l'Assemblée maintenant.
Ouais, va prouver qu'il l'a fait volontairement ou que c'est par imprudence. Ouais, ouais. Et enfin, on a appris aujourd'hui qu'un juge va enquêter sur des accusations de torture par personnes dépositaires de l'autorité publique à propos de l'interpellation controversée de plus de 100 lycéens à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines fin 2018. Ah ouais. On se souvient de ces images particulièrement insupportables de ces 151 lycéens à genoux, mains sur la tête, sous le joug des policiers en armes. Voilà une classe qui se tient sage, avait commenté un policier filmant la scène. Ces jeunes avaient été placés en garde à vue et relâchés après un rappel à la loi, tandis que les policiers bénéficiaient d'un non-lieu dans l'enquête de l'IGPN dès juillet 2019. On connaît l'IGPN et ses pratiques à ce niveau-là. On verra bien ce qu'il en est de cette nouvelle procédure, mais elle aura au moins le mérite de nous rappeler cette histoire abominable.
Ok, et puis bah pour finir, pour celles et ceux qui se demandaient où il était passé, Godin, le maire de Marseille, il a assuré dans une vidéo hier que pour le déconfinement, tout est prêt. Je le fais bien, ouais. Je me lance un peu dans les imitations en ce moment.
Lance-toi dans la politique, t'es presque crédible là.
Non, c'est ça. Ah, je vais rester au niveau des imitations.
Godin en avait oublié.
C'est mon petit côté, j'ai Nicolas Canteloup. Alors, il dit qu'il y a 1,5 million de masques gratos. Il y a du gel pour l'école, c'est bon. Ça va désinfecter la cantine, c'est bon. Il y aura des dépistages pour les agents municipaux, des thermomètres, les tests, c'est bon. Il y aura où quoi d'autre? Ouais, le commerce, la restauration, le tourisme, le sport, la culture, c'est bon, ça va reprendre. La solidarité avec les entreprises, avec les seniors, avec les personnes isolées, avec les familles défavorisées, c'est bon, c'est fait. Le développement au service de tous, on est en zone verte, tout ça, youpi, bravo. Et en vrai, dommage qu'il ne soit pas représenté au municipal, celui-là. Moi, avec des annonces comme ça, je revote pour lui direct.
tout est nickel, apparemment. Bon, bah, comme dirait l'autre, nique ton mère. Je crois qu'on va pouvoir enchaîner sur de la musique.
Bah, ça me paraît bien. Yeah. On s'écoute un petit Kraft Boca.
Aïe.
Carte postale, feat Al Nasser.
C'est le dernier, ça vient de sortir.
Le froid glacial, la haine raciale, les contrôles faciales, et le bêta en rafale, la projection radiale. Fichez couler, c'est la bataille navale. Ils répriment les manifs, les médias sont fascistes. C'est dans l'assemblée qu'on trouve les terroristes. Des murs massifs pour nos pains de plastique. Et l'air confus vient pas chez l'herboriste. Regarde à vue, tu connais la notice. On s'entretue aidé par la police. L'air libre d'histoire, c'est l'Allemagne et Clovis. Pas une seule page sur le colonialisme. Au champ du signe, ça sera nous les choristes. De tous leurs insignes, de leur capitalisme. Demande pas si ça va, tu sais que ça va pas. Demande pas si ça va, tu sais que j'y crois pas.
Fuck. 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 Fu la carte postale, la frustration est une arme létale. J'ai un bon droit, pas le mort. Mais où est-ce qu'on va? Ça va, ça va. Dans tes entrailles, mais qu'est-ce que tu crois? Pour les nerfs craques, avant que tu craches. J'ai foutu le feu à la carte postale, la frustration est une arme létale. J'ai un bon droit, pas le mort. Mais où est-ce qu'on va?
De galère et de sortie.
Now in my younger days I used to force it.
Un.
Tout d'abord,
il n'y a pas
de crise
du logement.
Deux.
Le logement n'est pas en crise.
5. Quand on appelle cette crise du logement, cela sert les intérêts de celles et ceux qui conçoivent les logements, les font construire et en tirent profit. Cela ne sert pas les intérêts de celles et ceux qui vivent dedans. 6. Parler de crise du logement nous encourage à penser par abstraction, par nombre, par unité interchangeable, et non à penser aux personnes ou aux logiques de pouvoir.
7.
Nous vivons une crise des droits des locataires. 47. Le rôle du mouvement n'est pas de résoudre la crise du logement, mais de gagner plus de droits pour les locataires. De construire suffisamment de pouvoir parmi elles et eux pour être en position d'exiger plutôt que de demander. 51. On l'a entendu des millions de fois, et on l'entendra encore des millions d'autres.
Il y a une crise du logement, et il faut bâtir toujours plus pour s'en sortir.
53. Nous comprenons la politique de l'offre comme une tentative de réguler le logement sans introduire de gouvernance. Une manière de mettre les gens hors du politique. Une logique qui bénéficie aux gens qui tirent profit du logement et non à celles et ceux qui y vivent. 57.
Comme pour la crise du logement, ici aussi, nous devons changer de perspective. Les propriétaires ne fournissent pas de logement. Ils tirent un loyer du logement. Les promotrices ne fournissent pas de logement. Ils et elles spéculent sur le logement.
59. Rappelez-vous, la justice du logement est une lutte, pas un débat. Comme dans n'importe quelle bataille, il y a des camps.
69. Du point de vue des droits des locataires, nous n'avons pas seulement besoin de contrôler le marché, nous devons le dégager hors de nos vies. 75.
Le loyer est l'hypothèque de la maison secondaire du propriétaire. Il est le garant de la perpétuation des actifs intergénérationnels et est converti en un titre financiarisé et offert aux fonds spéculatifs sous forme d'obligations. 79.
La grève des loyers, comme tactique, démontre fondamentalement la force de notre union. Même quand nous n'avons pas de loi pour nous protéger en tant que locataires,
nous pouvons toujours compter les unes sur les autres. 97. Et nous préparons le terrain pour une grève générale des loyers.
Tu ne peux pas, en aucune circonstance, faire de politique seule dans ton coin.
On vient d'écouter une sélection du manifeste du LATU. Donc le LATU, c'est le LA Los Angeles Tenants Union. Donc c'est un syndicat de locataires de Los Angeles qui, depuis 2015, s'organise pour que chacun, chacune, ait le droit à un logement décent dans son quartier. Donc c'est un syndicat, en fait, qui organise des occupations et des grèves de loyers.
Avec ma colocataire, depuis le 1er avril, on a décidé d'arrêter de payer notre loyer. Je suis au chômage depuis 6 mois et ma coloc, elle est en reprise d'études. Et c'est pas la première fois qu'on galère à payer notre loyer parce que ça représente une grosse part dans notre budget, comme pas mal de monde. Donc on a envoyé un courrier à notre proprio pour lui dire qu'on n'avait pas les moyens de payer le loyer parce qu'on n'avait pas de possibilité de trouver du travail ce mois-ci avec la crise du corona. Et puis ma coloc, elle a plus de stage parce qu'il a été annulé à cause du corona aussi. Ça, c'est ce qu'on dit à notre proprio, mais au-delà de ça, on pense qu'on ne devrait pas avoir à payer pour avoir un logement. Et ce qu'elle nous a répondu, c'est qu'on pouvait payer que la moitié du loyer ce mois-ci et le reste en arriéré.
Si concrètement, en fait, aujourd'hui, en fait, on pourrait encore payer le loyer. En soi, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. On est deux là à ne pas savoir si on retrouvera du travail. les autres dont le contrat arrive à terme ne sauront pas non plus s'ils trouveront de travail ou un moyen de payer le loyer plus tard. Donc on ne sait pas trop. Et cette incertitude nous a poussé en fait à faire cette grève. Ça a été un peu compliqué parce que la situation actuelle dans l'immeuble, en gros, c'est que c'est quand même beaucoup de petits propriétaires, des personnes assez âgées qui ont acheté il y a longtemps du coup leur petit appartement. Ce qui fait qu'on a du mal un peu à trouver des alliés dans cette grève, en tout cas au niveau de notre immeuble. Sachant qu'en fait, on a un peu du mal aussi à sortir avec ce confinement, donc c'est dur de trouver d'autres locataires pour faire cette grève. Nous, notre stratégie du coup ce mois-ci, ça a été de payer une toute petite partie du loyer qui en gros correspondait à nos APL à peu près, et on a envoyé un mail à notre agence directement pour leur expliquer un peu la situation et pourquoi du coup on payait pas notre loyer. On était un peu dans un truc d'apaisement, pas encore un truc très frontal vu qu'on savait qu'on n'était pas encore beaucoup sur cette grève des loyers. Donc ils nous ont répondu que de toute façon ils s'en doutaient qu'on faisait grève parce qu'on avait déployé une banderole grève des loyers sur notre balcon, que notre gentil gardien était allé tout de suite rapporter à l'agence comme la bonne poucave qu'il est. Une seule relance au niveau du loyer, mais c'était un truc automatisé. Bref, pour l'instant ça coule un peu.
On a envoyé un courrier à notre agence immobilière en pensant qu'elle pourrait faire l'interlocuteur entre nous et les proprios. Sauf qu'en fait, il s'avère que notre agence n'est pas gestionnaire du bien et c'est juste... En fait, on l'a juste payé pour faire l'état des lieux, quoi. Du coup, elle nous a renvoyé vers les propriétaires. Du coup, on a attendu un peu avant de les contacter. Puis, au milieu du mois, ceux qui nous ont rappelés. Du coup, là, on a entamé un peu des négociations avec eux pour voir ce qui était possible. Et on a réussi à négocier qu'on paierait juste le prix des APL pour ce mois-ci et probablement le mois prochain, quoi. En fait, la question de ne pas payer le loyer, elle se pose tout le temps et pas seulement dans le confinement, quoi. Faire la grève, c'est pour sortir de cet isolement-là, quoi. Bon, puis après, il va falloir se donner les moyens d'aller foutre des coups de pression aux agences immobilières, d'être capable de réagir en cas d'expulsion. Parce que, en fait, nous, ça nous suffira pas de juste plus payer le loyer pendant le confinement. Je crois qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas capté, c'est qu'en fait, nous, on veut plus payer du tout notre loyer. En fait, on veut niquer la propriété et puis on veut plus jamais avoir à dépenser un sou pour pouvoir avoir un toit sur la tête, quoi.
Donc, un des premiers trucs à faire, c'est de vous rapprocher d'un groupe local. Les groupes locaux, vous les trouverez grâce à Internet, via Twitter, Facebook ou encore l'application Telegram. On va vous mettre aussi en lien donc de cette émission différents mails et contacts qui pourront vous servir pour trouver un groupe local près de chez vous. Ce ne sera pas exhaustif, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches et à aller chercher, comme je le disais, sur Internet, sur Facebook pour trouver des personnes proches de chez vous, avec lesquelles vous organisez. Autrement, c'est important aussi d'en parler à votre entourage, à vos colocs, à vos amis, aux autres locataires de votre immeuble, à vos voisins, voisines, et de leur proposer de participer à cette grève. Dans ce même temps, il est plutôt conseillé en fait, de contacter le propriétaire de votre logement et lui expliquer votre refus ou votre incapacité, ça dépend à quel point vous avez envie de... Enfin, comment vous avez envie de vous positionner plutôt, et de lui dire donc que vous voulez pas ou que vous pouvez pas payer votre loyer ce mois-ci. Et là, vous allez voir, ils peuvent vous donner, comme vous l'avez vu tout à l'heure, au travers des exemples de personnes là, qui témoignaient, de grévistes qui témoignaient, il va y avoir différentes réponses possibles. Donc il y a pas mal de ressources qui sont déjà disponibles sur Internet, notamment pour écrire donc ces lettres à vos propriétaires, entrer en contact avec votre voisinage. Et aussi, n'hésitez pas à partager vos situations à vous réelles, vos expériences, vos lettres, vos compétences juridiques ou artistiques si vous avez envie de contribuer en proposant des affiches, des tracts, etc. Enfin voilà, c'est des sites généralement qui sont ouverts, quoi, sur lesquels il est facile de contribuer.
Un cinquième de locataires qui craignent de ne pas pouvoir payer leur loyer ce mois-ci.
En France,
et les propriétaires sont encore plus flippés. Hein. Ils sont 34% à craindre des impayés de loyer. On voit bien que les propriétaires ont plus peur que nous, que les locataires en tout cas. Profitons-en.
Déjà, une première chose, c'est que la grève des loyers, finalement, c'est une forme de mobilisation qui est possible même en période de confinement. Et comme on l'a vu dans les exemples historiques, ça permettrait déjà aux personnes actuellement vulnérables, menacées d'expulsion, de pouvoir respirer et de ne pas payer leur loyer pendant quelques mois, sans avoir peur finalement d'être expulsées ou sans avoir à se poser la question de bouffer ou de payer leur loyer.
De ne pas payer leur loyer ou de ne pas payer une partie de leur loyer.
Ouais, ou de pas payer leurs charges aussi. Ouais. Après, on peut se demander qu'est-ce que ça peut permettre finalement cette grève des loyers au-delà donc, de cette question un peu de plus de survie. On a le sentiment que, au vu des exemples historiques qu'on a vus lors de cette émission, que quelque chose d'assez clé, c'est que ça permettrait de recréer une solidarité de classe et de pas s'enfermer dans l'ornière de la solidarité humanitaire qu'on cherche à nous vendre. Alors voilà, c'est très bien de faire ses courses à son voisin de palier ou à sa voisine, mais ça laisse complètement inchangé les causes de cette situation de merde qu'on connaît actuellement, et ça en épargne les responsables.
Ce que ça peut permettre également, c'est de créer des communautés de lutte et d'entraide qui pourront, en tout cas on l'espère, dépasser la seule question du logement et remettre en cause le capital de manière plus générale. Ça crée aussi des bases d'organisation pour ne pas subir tout ce qui vient avec le confinement, avec le coronavirus, avec l'état d'urgence sanitaire. À savoir quoi ? À savoir toutes les mesures antisociales là, qu'ils ont déjà pondues sur le droit du travail par exemple, toute la folie sécuritaire qui est en train de se mettre en place et les subventions qui sont en train de tomber en masse pour les capitalistes afin qu'ils relancent la machine.
On a l'impression que ça permettrait de venir taquiner cet adversaire propriétaire, de venir cibler finalement notre adversaire. Parce qu'on a plutôt ces derniers temps tendance à quémander à l'État des logements sociaux, plus de logements, etc. Et que c'est assez inspirant de voir que dans l'histoire de ces grèves des loyers, il y a des personnes qui pendant des années n'ont pas payé les loyers, ont arrêté de demander quoi que ce soit et ont même été jusqu'à faire péter les baraques des propriétaires. Et d'autant plus qu'on se rend compte que le prix des loyers, en fait, ils sont déterminés par notre acceptation. À ce prix, à ce loyer finalement. Alors cette grève, ça nous permet de leur dire d'aller se faire foutre et qu'on n'acceptera pas, qu'on n'acceptera plus. Parce que ce qu'on a pu observer aussi au travers de ces grèves historiques, c'est que même si elles n'étaient pas toujours victorieuses, finalement s'il n'y avait pas des victoires à la hauteur de ces luttes-là, c'est qu'elles ont quand même poussé les proprios et l'État à offrir à moyen terme des conditions plus avantageuses, par peur que l'incendie reprenne.
Privé de sortie.
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 Privé de sortie, l'émission des confinés de Marseille.
Je déteste le dark, hey, mais je le côtoie. Je dépèse ton quartier, tu me fous droit. Je traîne pas dans le quartier, je suis trop fichard. Je traîne pas trop sur terre, je suis dans l'espace. Je bois le poison, je mets le frein sur passion. Je regarde dehors et c'est sombre, ça pue la mort, la récession. Souvent je nage comme poisson, parfois je crache comme volcan. Amour la queue, drôle la musique, hey. Moi je m'endors sur missile, sur ces mois drôle à l'usine, hey. Comment gérer l'agonie? Mon cœur n'a pas chez là, même si ma tête est usée, yeah. Je suis d'humeur médusée, véritable. Tu fais semblant mais tu sais,
exact. Pas de plomb dans la cervelle, ni de plan professionnel. Encore moins de PEL, à Zanzibar, archipel. Archi hyper mémoriel, et ça pue la maternelle. Je n'ai aucune orientation, je suis omnidirectionnel. Sociopathe au beurre et sel, disproportion artérielle. Avec ma santé de demeure, je fais des jolies aquarelles. Totalement compulsionnel, de surcroît avec les doigts. Légumineuse en surpoids, je rentre du jardin, je nourris les chats. Qui tringlera la trilogie, je suis le tricard dans tes orgies. Ornithorin consorti, je ramasse mes nez dans les orties. Je suis parti de ta patrie, parti voir des patrouilles patraques. Que la troupe change de traque, je suis zinzin sous la morale.
Les yeux tartares, le cerveau nougat. Petit bâtard, c'est pas une muda. Les yeux tartares, le cerveau nougat. C'est pas une muda. Les yeux tartares, le cerveau nougat. C'est pas une
cerveau de nougat. Wow.
Pas de galère, il est sorti.
Vous êtes de retour à l'écoute de Radio Galère sur Privé. C'est l'émission, c'est Privé de sortie, le 88.4. Et on voulait revenir sur la synthèse de recommandations aux autorités de santé et aux scientifiques en charge de guider la stratégie de déconfinement du gouvernement. Waouh, qui a été publiée par l'asso Aide. Ça fait 12 pages, donc voilà, on va vous les lire mot à mot. Non, on a fait une petite, un petit billet de synthèse, histoire de voir un peu plus clair là-dedans. Bon, juste pour préciser, Aide, c'est une association, si vous connaissez pas, mais bon, a priori tout le monde connaît plus ou moins. C'est une association de lutte contre le VIH et les hépatites virales qui avait été créée en 84. Elle est d'utilité publique depuis 90. Et là, elle publie une grosse note donc, qui est parue le 24 avril, dans laquelle elle donne des pistes pour une stratégie de déconfinement en privilégiant des approches, une approche communautaire de réduction des risques. Donc, cette stratégie commence par placer au centre de toute action la garantie des droits fondamentaux, parle aussi d'un encadrement strict de l'usage de la surveillance numérique et propose des pistes pour éviter les pénuries de matériel et de produits de santé. Mais il y a une partie en plus de ces trois sujets-là sur laquelle j'avais envie de revenir, qui invite à mettre en place des actions de prévention, de dépistage, fondées sur la pédagogie plutôt que sur la contrainte. Et dans le cadre du déconfinement, bah, ça prend vraiment tout son sens d'en parler, je trouve. Alors qu'est-ce que ça dit, ce rapport ? Ça dit d'abord que le dépistage fait partie de la prévention de la transmission du virus. Il permet de piloter les politiques publiques par la veille sanitaire, il permet de lutter contre l'épidémie, mais pas uniquement parce qu'il rend possible l'entrée dans le soin d'une personne infectée, mais aussi parce qu'il permet en fait à chacun d'être informé sur son statut et d'élaborer soi-même ses propres stratégies de prévention. Et c'est ça qui est chouette dans ce rapport et qui ressort de ça, je trouve. Et donc, sans surprise, Aide a de l'expérience dans le domaine. Hein. Le rapport nous dit que ce renforcement des capacités des personnes donc pour élaborer ses propres stratégies s'inscrit dans le principe de la réduction des risques et qu'évidemment, ça a fait ses preuves en matière de lutte contre le VIH et les hépatites. Ça a même démontré que des publics qui étaient perçus comme peu soucieux de leur santé, comme les travailleuses et travailleurs du sexe ou les usagers de drogue dans le cadre du VIH, pouvait en fait s'emparer d'informations en santé et mettre en place des bonnes pratiques et en plus à en faire la promotion dans leur communauté. Et quand on dit communauté, on parle évidemment pas du grand remplacement communautaire qui hante les nuits de Finkielkraut, on parle des personnes avec lesquelles elles partagent une communauté de conditions et de destin, en tout cas c'est comme ça que le définit Aide. Les tests PCR qui consistent à faire un prélèvement nasal avec un coton-tige et qui sont utilisés actuellement en France permettent de diagnostiquer la maladie. Les tests sérologiques, qui devraient être bientôt disponibles, bon, on attend toujours, permettent de savoir si la personne testée a développé des anticorps qui révéleraient qu'elle aura été porteuse du virus dans un passé récent. Ces tests sérologiques, qui pourraient être pratiqués sous forme de tests rapides par des acteurs non médicaux, auront un intérêt indéniable pour les personnes testées et seront nécessaires pour un déploiement à grande échelle du dépistage. Comme l'a démontré en fait l'expérience du VIH, connaître son statut sérologique, c'est un moyen d'adapter ses pratiques. Pour une personne qui présente des symptômes, c'est avoir un diagnostic positif rend plus acceptable les mesures d'isolement par rapport à son entourage. Et savoir qu'on n'a pas été en contact avec le virus ou que son propre statut est incertain et qu'on est susceptible d'être contagieux, par exemple, et ben ça permet d'adapter ses comportements envers les personnes âgées ou fragiles, mais aussi envers son entourage familial, amical, professionnel, sexuel et j'en passe. Même si les tests sérologiques sont imparfaits, ils sont évidemment toujours préférables à l'absence de tests. En fait, s'il n'y a pas de test de dépistage pour toutes et tous, pour tous celles et ceux qui le souhaiteraient, la priorisation doit certes se faire sur des critères médicaux ou professionnels, normal, mais on doit aussi privilégier les personnes particulièrement exposées à une contamination et qui apparaissent comme éloignées du système de soins. Aide donne quelques exemples, les personnes migrantes, les sans domicile fixe, etc. Ces personnes doivent être perçues non seulement comme à risque, parce qu'elles le sont, mais aussi, et peut-être surtout, encore une fois, comme des potentiels promoteurs des bonnes pratiques au sein de publics qui ne sont pas en contact avec le système de soins. qu'il soit conseillé aux personnes atteintes de maladies chroniques en surpoids important ou ayant de plus de 65 ans de poursuivre le confinement ou d'être soumises à des contraintes beaucoup plus fortes que le reste de la population, est une hypothèse qui a été soulevée. Et là, l'asso aide demande la plus grande vigilance sur le fait de distinguer les droits en fonction du statut sanitaire. A priori, l'obligation d'un dépistage systématique a été écartée, mais des recommandations fortes auraient des effets équivalents. Une pression, qu'elle soit juridique, sociale ou même politique, pour que repose uniquement sur les plus fragiles au Covid-19, la responsabilité de lutter contre l'épidémie est à bannir. Les personnes fragiles au Covid-19, du fait de leur âge, de leur poids ou de leur comorbidité, c'est un terme très moche qui veut dire qu'elles ont d'autres maladies qui les fragilisent, ces personnes doivent pouvoir recevoir une information médicale précise et claire sur les risques qu'elles encourent. Elles doivent aussi avoir les moyens de leur prévention. Si elles souhaitent poursuivre un confinement strict, alors il faut leur assumer le maintien de leurs revenus et de leur emploi si elles en ont un. On ne peut pas leur demander de choisir entre leur santé et leurs ressources. Le déconfinement ne doit pas signifier non plus que l'espace public devient de fait réservé aux personnes sans problématiques de santé et peu susceptibles de développer des formes sévères de Covid-19. Je fais un aparté parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu passer un tract dégueulasse appelant à une fête dite de l'immunité. Le 8 mai à Marseille, il était en gros écrit dessus « masque et gants prohibés » et ça invitait tout le monde à venir faire la fête, à s'embrasser en demandant aux personnes fragiles de se confiner entre elles pour ne pas venir à la fête et de ne pas venir à la fête, précisant même « il y aura bien d'autres fêtes pour vous lorsque la plupart des gens seront immunisés dans moins de 3 mois si on nous le promet, si on nous le permet ». Donc c'était absolument gerbant en fait pour celles et ceux qui ne s'en rendraient pas compte, il s'agit juste de discrimination, rien d'autre. Concernant la suite de ce rapport, le point suivant, et on s'arrêtera sur ce point-là, évoque le fait de donner aux personnes les moyens d'agir sur leur santé. L'objectif des politiques publiques ne doit pas être de faire de la prévention, mais de donner aux individus les moyens de prévenir la transmission du virus. Mettre à disposition gratuitement et sans condition des masques de qualité accompagnés de conseils d'utilisation, c'est la base en fait. Le caractère obligatoire du port du masque dans certains espaces, comme les transports en commun par exemple, n'est envisageable que si tout a été mis en œuvre pour que chacun, chacune, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa classe et tout le reste, puisse simplement y avoir accès. Ça semble logique à tout le monde, sauf à ceux et celles qui pourraient fournir des masques en masse, en fait. Lors d'un diagnostic positif de Covid-19, les moyens doivent être donnés à la personne concernée de prévenir ou de faire prévenir les personnes avec lesquelles elle a été en contact. Ça paraît normal, enfin logique, quoi. Mais ce travail implique que chacun, chacune puisse, sans peur d'être jugé, évoquer ses pratiques des jours précédents. Donc, les messages culpabilisants contre ceux et celles qui ne respectent pas les gestes barrières et la distance physique pourraient en fait se révéler complètement contre-productifs en empêchant le traçage des cas. Pour les personnes susceptibles d'être contagieuses et ne relevant pas de l'hospitalisation, la possibilité de s'isoler gratuitement et sans perte de revenus et si nécessaire de pouvoir faire garder ses enfants ou aider ses proches est essentielle. La mise à disposition de chambres d'hôtel ou autre type d'hébergement est une piste à explorer d'urgence pour permettre de casser les chaînes de transmission et de mettre en place un accompagnement global et encadré des personnes concernées. En résumé, dans cette partie de son rapport, Aide finit donc en faisant une liste d'exigences pour une stratégie de prévention et de dépistage efficace. Il y a 8 points. Le refus strict d'un dépistage obligatoire. La promotion d'une logique de réduction des risques partant des besoins des personnes, de leurs conditions de vie, de leur capacité d'action. La promotion d'une approche communautaire dans l'élaboration des réponses aux besoins des personnes. Le déploiement d'un dépistage opéré par des non-professionnels de santé formés, et puis des messages de prévention et de sensibilisation adaptés aux différentes populations considérées comme les plus à risque face au Covid et déclinés en différentes langues, ce serait quand même bien utile. La mise en place de mesures garantissant le respect des droits des personnes positives qui font l'objet d'une mesure d'isolement, maintien des ressources, maintien d'un lien social, etc. La mise à disposition gratuite et inconditionnelle des moyens de prévention, des masques, des hébergements en cas de dépistage positif, etc. Et enfin, veiller à ce que les mesures de prévention n'aboutissent pas à une inégalité de traitement qui relèverait d'une discrimination. Tout ça, vous le retrouvez dans le rapport de l'asso Aide, qui s'appelle précisément synthèse de recommandations aux autorités de santé et scientifiques en charge de guider la stratégie de déconfinement et de gouvernement. Et je rappelle juste qu'il y a d'autres parties tout aussi intéressantes dans cette stratégie, placée au centre de toute action la garantie des droits fondamentaux, l'encadrement de la surveillance numérique et des pistes contre les pénuries de matériel et de produits de santé.
Et à propos de tout ça, on ne peut que vous renvoyer à ce texte qui avait été lu dans l'émission, qui était une tribune qui avait été écrite par ACT UP, et c'était dans l'émission Privée de sortie 25 du 17 avril. On est dans la continuité, question de réduction des risques et de se réapproprier tous ces savoirs qui ont été générés par ce que la communauté des séropositifs a pu faire dans les années 80.
Ouais, et du coup, on vous encourage à lire ces rapports. Ils sont vraiment super chouettes. Ils sont ultra complets. On sent l'expérience derrière. Et en vrai, les autorités et nos gouvernants devraient bien s'en inspirer. Ça nous changerait un peu.
Et ça fait du bien au sentiment d'impuissance qu'on peut tous avoir en ce moment, tous et toutes avoir, à la perspective de déconfinement qui ne va pas être évident, évidemment.
Exactement, et on va continuer en musique, c'est ça ?
Eh non, d'abord on va écouter la chronique de PF qui s'appelle Bas les masques.
Yes, PF,
la chronique de PF.
Je sais pas pour vous, mais moi, à quasi chaque fois, je réagis en m'exclamant des trucs comme... En ce jour J50, bienvenue dans cette période de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, lui-même prolongation de l'état d'urgence antiterroriste. Bon, après les auto-autorisations obligatoires afin de nous habituer au contrôle, les masques obligatoires pour nous domestiquer au contrôle. D'ailleurs, du nouveau monde pour contrôler, en veux-tu ? En voilà ! Alors après la police qui tue parce que tu traînes le soir alors que t'as pas de maison, voici réquisitionner les réservistes de la police et de la gendarmerie, les gendarmes adjoints volontaires, c'est qui eux ? Jamais entendu parler. Et, tadam, les agents de sécurité assermentés. Waouh ! Encore un petit peu plus de monde pour en surveiller d'autres. Dire quoi faire, nous obstiner, nous fliquer, nous mettre la pression, nous faire obéir, nous provoquer. Ah, le bon sentiment de supériorité, de pouvoir et d'impunité que certains vont découvrir. C'est réjouissant. Et Castaner qui nous loue le civisme et l'esprit de responsabilité des Français, bien sûr. Tout va bien aussi, les lieux de spectacle, de loisirs, de culture ne sont pas prêts de réouvrir, mais c'est bien normal après tout, parce que ce sont des lieux potentiels de subversion. Là où la plèbe se rassemble, les esprits s'échauffent, là où les foules se divertissent, les langues se délient. En tout cas, pas celle du ministre de la Culture, le gars on l'a jamais entendu une seule fois parler, quoi. De toute façon, c'est un pantin. Alors les artistes, les intermittenteux, les techniciens neux commencent à se faire entendre et exigent qu'on ne les oublie pas. 1 300 000 personnes concernées, là encore, c'est pas rien. En reparlant de domestication, le travail domestique gratuit et non reconnu des femmes n'est jamais bien loin, hein, ni jamais bien difficile à réactiver. Quand il y a eu la lancée de confectionner des masques en tissu, pour compenser la pénurie programmée, ce sont les femmes qui s'y sont mises, de bon esprit, de bon élan, et parce qu'elles étaient outrées qu'il n'y ait pas de masque. Que cela ait été de manière autonome, spontanée, ou en répondant aux appels des mairies, que ce soit des couturières professionnelles ou amatrices, que ce soit au domicile, aux ateliers ou en groupe, ce sont les femmes qui s'y sont mises. Bon, et quelques bonhommes aussi. À ce moment-là, je me souviens, avec ma co-chérie, on s'est dit direct... Mais voilà quoi, les femmes, elles vont encore travailler gratuit, tranquille la collectivité. Est-ce que les mecs se jetteraient dans les rues pour ramasser et débarrasser les poubelles gratuitement, toute la journée, en y investissant leur propre matériel, sans y penser 10 fois ? Mais non, non ! On croulerait sous les ordures, je vous le dis. Oui bon, quitte à être cliché, j'ai choisi l'exemple des poubelles, et alors ? Alors des milliers de femmes ont été exploitées. Parce qu'il y a eu appropriation de leur travail gratuit. Et elles en ont ras le cul. Ouais, je voulais dire ça. Elles en ont marre. Elles estiment avoir assez donné de leur personne, à un rythme d'usine, sous pression et gratuit. Et on s'offusque qu'elles ne veulent plus travailler gratuitement ou qu'elles se refusent à fournir davantage sans être connues. Mais merde, quoi ! Qui veut travailler pour le capital sans qu'il crache ce qu'il doit cracher, et encore plus? Pourquoi les nanas devraient faire rouler une industrie que le gouvernement devrait prendre en charge, plutôt que de fermer des usines à masques, comme en 2018 en Bretagne, dans l'indifférence générale? Alors dans plusieurs villes, des lettres pétitions collectives voient le jour pour revendiquer d'être rémunérées. Un de ces collectifs de couturières s'appelle Bas les masques. Ça se distingue de l'appel du même nom lancé par les soignantes et professionnels de la santé. Faut dire que bas les masques, ça pète. Ce qui est rassurant, je dirais, c'est que dans un épisode critique, spontanément, les personnes se lèvent, s'agglomèrent, se tissent, se solidarisent, agissent, réagissent, se mobilisent, s'activent, pour faire face, pas le choix. Et quand on se rend compte que finalement, en plus, les ministères publics y font main basse, en abusent, en tirent encore profit, que c'est l'État qui en bénéficie ou qui ignore, alors là quand même ça fout les nerfs. Et là, les individus se lèvent à nouveau, et encore, se relèvent, et s'organisent, se revêchent, s'associent, se mettent complices et s'accomplissent, et crient, hurlent leur ras-le-bol, leur rage, leur colère. Serions-nous effectivement de plus en plus résistantes au choc? D'ailleurs, lorsque sera annoncé le deuxième confinement de l'ère coronavirus, on aura été tellement bien policé qu'on va y retourner volontiers, hein, on sera entraîné. Et les pouvoirs publics ont bien vu que ça a bien marché pour eux une première fois. On a bien réagi, on a bien obéi. Ou bien, et même si c'est dans un deuxième temps, comme un sursaut, comme un réveil, ou bien, non, nous refuserons et nous résisterons un peu plus. Tout du moins, peut-être que nous n'accepterons plus les règles de la même façon. Bas les masques.
Yes, bas les masques. Merci PF pour ta chronique. Et ça me donne envie juste d'ajouter une petite information auquel nous on a accès parce qu'il y en a parmi nous qui participent à la modération du groupe Entraide et Solidarité dans la crise du coronavirus Marseille. Et il s'avère qu'il y a des statistiques qui sont produites par Facebook qui nous permettent entre autres d'accéder de se faire une petite idée des membres. Et pour vous dire, en gros, là j'ai pas les chiffres sous la main,
mais c'est assez représentatif en plus parce qu'il y a 3000 membres.
Mais oui, c'est ça. Il y a même 4000 membres maintenant, donc autant dire que c'est un sacré échantillon. Ça représente quelque chose et tout ça. Et dites-vous que sur les 4000 membres, il y a au moins il y a plus de 68% qui sont des femmes et voilà, le chiffre restant, 30-32% qui sont des hommes. C'est bien parlant sur qui prend en charge la question du care dans nos sociétés, y compris parmi nous, dans ces trucs d'entraide.
Ouais, et ça avait déjà, on en parlait déjà avant la crise du coronavirus, hein, c'est rien de nouveau non plus. Hein.
Pas de surprise. Voilà. Et je crois qu'on va enchaîner sur un peu de musique, le dernier morceau de l'émission.
On écoute La Rumeur, la meilleure des polices. N'écoute pas Privé de sortie.
Morceau d'actualité s'il en est.
88.4, Tati.
Aïe.
Pas l'uniforme. Double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage. Sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on te crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs.
et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois, parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer.
Tu pectes pour garder le goût.
La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.
Privé de sortie.
L'émission des confinés de Marseille.
Ouais, la rumeur. Bon, on voudrait quand même préciser après cette chanson que se faire enculer peut être parfois plaisant. Voilà, on tenait à le rappeler.
Au cas où.
Et ben voilà, c'est la fin de cette émission, les amis.
Ouais, yes. Bien content de vous avoir encore retrouvé aujourd'hui. Puis bah, on se retrouve demain de toute façon.
Si, on se retrouve demain. On vous rappelle que l'émission, bah, c'est un peu le compte à rebours. Donc si vous avez des choses à nous proposer, bah, faut vraiment nous les envoyer maintenant à l'adresse mail pvsortie@riseup.net. C'est la dernière semaine, les amis.
On est sur Facebook aussi. Vous pouvez checker sur notre page là ou nous contacter par le biais de notre page. C'est privé de sortie radio confiné. Vous devez connaître si vous avez l'habitude de nous écouter.
Et voilà. Et bah oui, on est au plaisir de vous retrouver dès demain à la même heure, à 16h.
Et d'ailleurs, on peut faire un petit big up parce qu'on l'a pas fait dans cette émission aux éditeurs, auditrices de Radio DC, de Finement Con, de Radio Piquaise et des autres. Merci beaucoup à vous de nous rediffuser, de nous écouter depuis si loin. Ça fait grave plaisir. Ciao la mif, à demain.
Il n'y a pas que des galériens, des galériennes à Marseille. Ciao la mif.
Ciao.
Yeah.
Privé de sortie. C'est l'émission des confinés de Marseille, en direct, depuis un appart confiné, bien sûr.